Pendant le remède à la paresse, la dernière fois nous avons pris le temps d'examiner la paresse dans le livre de Proverbes. Et nous nous sommes rappelés que la paresse, bizarrement pour nous, est un des sept péchés mortels de l'Antiquité, avec l'orgueil et les autres. Et nous avons constaté que, effectivement, la paresse conduit à beaucoup de mal dans le monde. Et que beaucoup de gens, plus de gens ne périssent par paresse que par le meurtre ou l'adultère. Plus ne périssent simplement parce qu'ils ne sont jamais prêts à lever le doigt pour chercher leur Créateur. C'est plus mortel, c'est plus dangereux, dans un sens. Nous avons aussi constaté que la paresse sur un plan complètement terrestre est très dangereux. Le garçon ou le jeune homme qui est paresseux, qui ne prend pas un moment pour penser à sa vocation future, qui passe tout son temps devant les jeux vidéo, est en train de ruiner sa vie, de passer à côté des occasions. Et s'il devient adulte, il reste paresseux, il n'est pas travailleur. Il peut ruiner non seulement sa vie à lui, mais la vie de sa femme et ses enfants. Et on les voit, de telles personnes. Donc, aujourd'hui, nous voulons penser au remède de la paresse et nous avons tous de la paresse. Tous, moi et vous, nous luttons parfois avec la paresse. Certains d'entre nous, de manière générale, d'autres uniquement dans certains domaines. Nous sommes très travailleurs ici, mais là-bas... Mais quoi qu'il en soit, nous avons tous besoin... d'examiner le cœur, notre cœur. Quelles sont les attitudes? Pourquoi est-on paresseux? Et quel est le remède? Ok. Petite introduction. Chers amis, l'opposé de la paresse, de la personne paresseuse, n'est pas la personne active, occupée ou même infatigable. Bibliquement. Parce que vous pouvez avoir un sous-chef ou sous-capitaine de la mafia qui est travailleur actif et infatigable. Mais ce n'est pas le but. Le travail en soi n'est pas le but de Dieu pour vous. Vous pouvez travailler parce que votre identité se trouve dans la réussite du travail. Ce n'est pas le but de Dieu pour l'homme. De caser toute son identité dans son gagne-pain. Ni de travailler pour faire le mal, ni de travailler pour s'enrichir tout simplement. Le travail en soi n'est pas la chose importante. C'est le pourquoi. L'opposé du paresseux, c'est celui qui travaille pour faire la bonne chose pour la bonne raison, n'est-ce pas? Pour faire le bien que Dieu lui destine à faire, parce que Dieu lui destine à faire cela. Donc, quel est le remède à la paresse qui nous amène à ce but-là? Premier aspect du remède. Corrigez vos pensées envers le travail et alignez ces pensées à celle de Dieu. Souvent, notre problème, c'est que nous avons des idées très fausses par rapport au travail. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui, pas tout haut, mais leur vie le montre, que Dieu nous a fait pour jouer. Dieu nous a fait pour nous distraire. Et le travail, c'est un mal nécessaire pour arriver au week-end, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment très courant aujourd'hui. Le travail de la semaine est un mal nécessaire pour arriver aux distractions et aux divertissements du week-end. Mais la Bible ne regarde pas l'âme ou la vie humaine comme ça. Dieu nous a fait, pas fait pour nous divertir, pour jouer. Il nous a fait pour travailler. Regardez bien. Dans la Genèse, lorsque Dieu fait l'homme, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous, je suis d'accord avec vous qu'il y a un aspect pénible dans le travail maintenant qui résulte de la chute. La Bible enseigne cela. Le travail est changé. Il y a une pénibilité qui n'était pas là au commencement. Mais ça ne change pas le fait que nous étions faits pour faire quelque chose, accomplir quelque chose, et non pas simplement pour jouer. En fait, nous sommes faits à l'image de Dieu, et Christ dit ceci. Il dit, à un moment donné, « Mon Père travaille jusqu'ici, et moi je travaille. » Maintenant, je veux vous demander, les gens que vous estimez le plus, les gens qui sont les héros, les gens que vous admirez, est-ce que c'est les gens qui ont passé leur vie à se divertir? Ou bien des gens qui ont accompli quelque chose, à la sueur du front, à travers des obstacles, pour le bien de l'homme, n'est-ce pas, cela? Dans les 10 commandements, vous savez qu'il y en a un qui parle du travail. C'est le commandement du sabbat qui dit « le commandement du sabbat qui commande un jour sur 7 de repos et d'adoration commence par ces mots. « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos du Seigneur. » Mais ça divise la vie humaine en 2 parties, 6 jours de travail et 1 jour de repos. C'est pourquoi la Bible a ces mots assez percutants. Paul qui parle à une église de Thessaloniciens 3, il dit, « Lorsque nous étions chez vous, imaginez que je vous dise cela. » Je le dirai, mais je ne l'ai pas encore dit. « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Voilà. Il n'a pas dit « si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas ». Il a dit « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, ça c'est la première pensée à corriger. Nous n'avons pas été faits pour nous divertir, même si nous avons besoin de nous divertir. Et nous reposer, et avoir des loisirs et des passe-temps. Je suis d'accord. On n'est pas des machines. Mais le travail n'est pas un mal nécessaire. C'est une vocation, une occasion, une opportunité, un bien. Deuxième pensée, qu'il faut avoir, c'est que tout travail accompli selon la volonté de Dieu et pour sa gloire, représente pour toi une haute vocation de la part de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes employé, artisan, ingénieur, docteur, avocat, je ne sais quoi plus, femme de foyer, élevant des enfants? L'Église catholique, dans le Moyen-Âge, a créé une perversion au sujet du travail. Et ça allait un peu comme ceci. Je cite un ancien ouvrage de l'Église primitive par un homme qui s'appelle Eusèbe. Il disait qu'il y avait 2 voies pour la vie des chrétiens. Et tout chrétien allait emprunter une de ces voies. Il y avait la voie de perfection, Et la voie de perfection, c'est devenir moine, ou devenir bonne sœur, ou devenir prêtre, et passer tout ton temps dans les occupations spirituelles. Ça, il l'appelait la voie de perfection. Et l'autre voie, c'était appelée la voie permise. Là, bon, si tu ne peux pas emprunter la voie de perfection, bah d'accord, on prend la voie permise. Et ça, c'est vous tous, les artisans, les enseignants, les avocats, ainsi de suite. Et c'était un peu être dans un wagon de deuxième classe dans la vie. Et cet enseignement qui a duré des siècles et des siècles, c'était l'enseignement, la perspective catholique sur la vie, a vraiment démotivé les gens. Un sociologue renommé, Max Weber, a même écrit un livre en regardant les pays d'Europe, les pays majoritairement catholiques, qui étaient systématiquement plus pauvres que les pays européens majoritairement protestants. Systématiquement. Et il a demandé pourquoi. Et il a découvert que cet enseignement catholique, que toi tu acceptes la deuxième voie dans la vie, c'est pas aussi bien que qu'être prêtre ou moine, c'est juste un truc qui est permis. Bien sûr, ça a démotivé les gens de travailler. Quand Martin Luther a commencé la réforme protestante, lui qui avait été moine, il avait commencé à lire la Bible, qui dit que la Bible dit tout le contraire. Il a brisé tout cela. Je vais d'abord vous lire un passage biblique et puis Luther. Le passage biblique, c'est Jésus. Jésus dit ceci. Et là, je suis d'accord, on est sur un plan spirituel, mais vous allez voir. Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, tu exerces de l'hospitalité un jour parce qu'un homme de Dieu vient chez toi et tu l'héberges. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est-à-dire, ton hospitalité vaut devant Dieu autant le fait que tu as fait des repas, tu as nettoyé, tu as lavé ses vêtements, ça vaut autant que son travail en prophétisant, dit Jésus. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, il parle des prophètes, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et voilà ce que Luther a dit, vraiment en rapport avec la Bible, vous allez le voir, il a dit, les œuvres des religieux et des prêtres, pour saintes et ardues qu'elles soient, ne diffèrent nullement des œuvres du paysan qui laboure son champ, ni de la femme qui s'occupe de sa maison au regard de Dieu. C'est la foi qui est la mesure de toutes choses. Luther voulait dire que Dieu vous appelle à faire ce que vous faites. Que vous soyez dans l'usine, que vous soyez dans le cabinet d'avocat, que vous soyez à la maison en train de prendre soin des enfants. C'est Dieu lui-même qui vous a placé là et c'est une vocation divine. Et quand on fait ce que Dieu veut, on participe à un destin, un appel très haut, une vocation où Dieu lui-même touche ta vie, enveloppe ta vie. Être maman est une haute vocation. Il n'y en a pas de plus haute. Être facteur, même faire des choses difficiles et qu'on pense être banal. Je vous donne un autre exemple. Dans le livre de Colossiens dans le Nouveau Testament, Paul dit ceci. Esclaves, il parle aux esclaves qui sont convertis dans le Nouveau Testament, imaginez leur travail. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites en tant qu'esclaves, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, dit-il. Oui, je suis d'accord. Ailleurs, Paul dit, si vous êtes esclave et vous pouvez vous libérer, vous émanciper, il dit, faites-le, bien sûr. Mais il dit, si vous ne pouvez rien, sachez que le Christ vous dit, si vous restez là fidèlement, même votre maître ne peut pas vous enlever le fait que vous êtes plutôt mon serviteur dans tout ce que vous faites. C'est formidable ça, n'est-ce pas? Et ça nous donne une autre raison, une autre motivation pour travailler devant le regard de Dieu. Je suis en train de vous dire que si vous allez échapper à la paresse, vous devez redécouvrir le sens d'appel, de vocation divine que l'homme doit avoir dans tout ce qu'il fait. Nous devons être un peu comme Jésus qui dit à ses disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Et vous aussi, votre nourriture, ce qui vous donne de l'épanouissement, c'est de faire l'œuvre que Dieu vous a assignée, d'accomplir son œuvre, en tant que maman, en tant qu'enseignant, en tant que dentiste. À la fin de sa vie, la veille de sa mort, Jésus a dit ceci, j'aimerais pouvoir suivre mon Seigneur et le dire aussi à la fin de ma vie. Jésus a dit dans la prière, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est ça. C'est ça qui rend le travail de l'homme important. Vous allez dire, mais moi je n'ai pas de travail destiné ou prédestiné. Ah, Éphésiens 2:10, qui parle à tout chrétien, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, il y a des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres se passent dans le lieu de travail, dans le foyer et dans le voisinage. Winston Churchill a grandi dans une famille où sa mère lui disait « Tu vas jamais rien accomplir. » C'est ce que dit son biographe. Et vous savez ce qu'il est devenu. C'est un des hommes qui a sauvé l'Europe. C'est un des hommes les plus performants du XXe siècle. Étonnant dans son courage et dans son pouvoir de décider et de faire la bonne chose au bon moment. Et Churchill croyait dans la providence de Dieu, une providence de Dieu qui, selon son biographe, l'avait prédestiné à être premier ministre juste à cette époque-là. Et il croyait que par ses choix, il était en train d'accomplir quelque chose qui était destiné. Il n'était pas chrétien. Mais il croyait que Dieu existait et il croyait dans la providence. Et un jour, pendant la Première Guerre mondiale, où il était soldat, il a écrit à sa femme Clémentine et il a dit ceci, « Au-dessus de moi battent des ailes invisibles. » C'est-à-dire, je ne suis pas tout seul dans ce que je fais. Et vous aussi, vous devez redécouvrir que Dieu vous a fait. Il vous a fait pour un plan. Pour chacun de nous, c'est merveilleux. On n'est pas largué juste pour faire un truc qu'on choisit. Donc ça, c'est la première chose que nous devons faire, c'est de corriger, dans un sens le plus grand, c'est de corriger notre attitude envers le travail. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et deuxièmement, bien sûr, si nous nous rendons compte que nous avons été paresseux à certains égards, on doit le confesser et être pardonné et lavé par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma paresse, c'est ma faute. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est moi. Le livre de Proverbes dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais quand même, elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle n'a personne pour lui dire vas-y, vas-y. Et elle fait quand même. Donc si je ne fais pas, je ne peux pas pointer vers ma maman ou mon supérieur pour dire que s'il était mieux, je travaillerais mieux. Non, va vers la fourmi et prenez la responsabilité vous-même pour vos paresses. Donc nous devons faire cela et confesser, avouer, dire les choses comme elles sont et puis accepter le pardon de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait à celui qui dit, Seigneur, j'ai un problème avec la paresse. Ah, ça m'énerve, ça me frustre, ça m'attriste. Mais Seigneur, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la Bible dit ceci en 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Est-ce que vous saviez que, écoutez bien, quand vous faites mal, la première chose n'est jamais, jamais d'essayer de commencer de faire bien. Jamais. Quand vous faites un péché, la première chose n'est jamais d'essayer de faire le contraire. Non. La première chose, c'est de vous occuper du mal que vous avez déjà fait. Non pas de commencer à faire de nouvelles choses meilleures. Mais vous devez d'abord régler la dette qui est là. Vous avez une dette. Et Dieu est là, il attend. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord au sujet de ce que vous avez déjà fait? Donc la première chose est toujours confesser, demander pardon. Et c'est dans la force de ce pardon reçu et cette conscience que Dieu m'a pardonné. Si vous confessez, il est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés. Dans la force de ce pardon, vous pouvez maintenant faire mieux. Voilà. OK, maintenant, ça c'est la deuxième étape. Donc, je corrige mes pensées. Le travail est une vocation, est un bien. Dieu m'appelle à faire ce que je fais. Et deuxièmement, je vois et j'avoue ma paresse. J'accepte le pardon de Dieu. Troisièmement, examinez votre vie et votre cœur pour identifier des racines éventuelles de la paresse. Est-ce que vous saviez que presque toujours la paresse n'est pas un péché isolé, mais plutôt un fruit de quelque chose d'autre? Alors pensez avec moi. D'où vient la paresse? De quelle autre mauvaise attitude ou pensée dans le cœur? Pourquoi est-ce que quelqu'un est paresseux? Voilà Jean. Il sait qu'il y a certains devoirs qu'il faudrait faire. Il sait qu'il y a certaines choses, certains biens qu'il pourrait, devait faire aux autres, mais il ne fait rien. Il regarde sa télé, il joue son jeu, il fait son passe-temps préféré et fait rien vis-à-vis de son devoir. Quel est son problème? Ben, probablement l'égoïsme. Jean pense à lui-même, plus qu'aux autres. La paresse est souvent un fruit simplement de l'égoïsme. Je sais que je devrais faire ça, mais je ne pense même pas aux implications envers les autres. Je pense qu'à moi-même et ce que je veux faire. Deuxièmement, la paresse est parfois le résultat de la colère. On ne veut pas bouger. Les gens qui sont colériques, nous disent les psychologues, deviennent souvent déprimés quand ils ne trouvent pas enfin, quand ils ne cherchent pas la résolution à la colère. Je suis colère, pitié de soi, je suis victime. Et est-ce qu'une personne comme ça est très travailleur, fait ce qu'il doit, cherche à faire du bien aux autres? Non, il se replie en lui-même. Un refus de faire face aux difficultés de la vie, une habitude de me plaire plutôt de renoncer à moi-même et faire ce qui est bien, ce que je dois. Toutes ces attitudes qui sont de l'égoïsme produisent la paresse. Parfois une culpabilité non résolue. Je me sens coupable parce que je sais qu'il y a quelque chose que je ne crois pas et que je ne fais pas et que je devrais. Et tant que j'essaie de cacher ça, ne pas penser à ça, au fond de moi, dans ma sous-conscience, il y a un inconfort, un malaise qui grandit en moi et qui me paralyse vis-à-vis de mon travail. Oui, le cœur, ton cœur doit être libre, libre pour travailler. Donc, corriger les pensées, confesser les péchés, examiner les racines de la paresse et ensuite identifier les choses spécifiques que vous avez négligé de faire dans votre paresse et que vous devez commencer à faire. Bien sûr, on ne peut pas corriger la paresse si on n'a que des idées vagues. Donc, je prends un moment et je regarde qu'est-ce qui a été laissé de côté, ignoré, négligé dans ma vie. D'abord, je regarde de manière générale. Ah oui, il y a tout un domaine ici et là où je ne fais rien pratiquement depuis des années. Vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma femme, ou vis-à-vis ma formation, ma croissance à moi, j'ai rien fait. Donc j'essaie d'identifier des choses où vraiment il aurait fallu faire quelque chose et je n'ai rien fait. Et puis aussi dans le domaine spirituel, je regarde, qu'est-ce que je ne fais pas? Ben, je ne prie pas. Je ne lis pas la parole de Dieu. Je ne fais rien pour aller vers les autres, pour secourir ceux qui sont nécessiteux, ou développer des relations avec des gens dans mon voisinage. On identifie là où je suis paralysé, là où je ne fais rien. Et à partir de ça peut être aussi simple que la ménage. Je ne repasse pas les vêtements de ma famille. Je suis paresseux. Je n'aime pas, je ne fais pas. Ça peut être aussi simple que ça, de commencer à faire spécifiquement certaines choses, par des petits pas. On ne peut pas tout changer en un jour, mais on doit identifier quelque chose de précis. Je ne fais pas ça, il faut que commence à le faire. Et puis, peut-être la chose la plus importante que j'ai à vous dire, c'est maintenant changer les pensées, confesser, identifier, examiner ma vie pour les racines du problème, identifier ce qu'il faut commencer à faire. Mais maintenant, cultiver dans votre vie la vraie source de tout travail et toute motivation fructueuse, qui est l'amour, la foi et l'espérance. Je vous soumets cette pensée. Un chrétien dans lequel l'amour, la foi et l'espérance sont nourris et cultivés est toujours une personne très motivée et travailleuse. Je vous montre pourquoi je dis ça. En 1 Thessaloniciens chapitre 1, Paul salue d'une manière différente. Presque toujours quand Paul salue une église, il dit Je remercie le Seigneur pour votre foi en Christ et votre amour les uns pour les autres et votre espérance envers le salut à venir. Pour les Thessaloniciens, il parle de ces trois choses, foi, amour, espérance, mais d'une manière un peu différente. Voilà ce qu'il dit. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Il dit ça parce qu'il dit plus loin que cette église était un exemple pour toutes les églises dans la Macédoine. Parce que cette seule église faisait entendre l'évangile partout dans la région, plus loin qu'elle. C'était une église travailleuse. Et il dit que ce travail, cette motivation venait de leur foi, leur amour et leur espérance. Comment ça se passe? Réfléchissez, c'est assez logique. L'amour. Est-ce que l'amour fait travailler? Pourquoi est-ce qu'il y a des drapeaux partout en France aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens se sont levés et sont allés au magasin, ont cherché un drapeau, ont vissé un support et ont mis ce drapeau-là? D'où vient cette activité, cet activisme patriote? Ça vient de l'amour. L'amour pour son pays. N'est-ce pas? Face à un danger, on aime son pays, cet amour est réveillé, on agit, on a envie d'agir. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui pousse les gens qui passent leur vie dans le tiers-monde à travailler jour et nuit pour amener de la nourriture à ceux qui ne l'ont pas? C'est la compassion, c'est l'amour qui fait travailler. Pourquoi est-ce que certains gens prient et d'autres pas? Romains 15 dit que c'est à cause de l'amour. Je vous lis. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Quand on aime des gens, on prie pour eux. Si vous voulez être travailleur dans le domaine spirituel, cultivez l'amour. Demandez au Seigneur, remplis-moi plus de ton amour. N'est-ce pas? Quand je pense qu'à moi-même, mon monde se réduit, mon activité, mon activisme s'amoindrit. Mais plus mon cœur est large et je pense aux autres, leurs besoins, leur situation, plus je me mets à agir et à travailler. Deuxièmement, la foi. Comment est-ce que la foi nous rend travailleurs? Eh bien, une des choses qui paralyse les gens le plus pour ne pas faire quelque chose, c'est cette pensée. Je n'arriverai jamais à le faire. C'est peut-être la chose qui empêche les gens le plus. Je n'arriverai jamais à le faire. Et si cette pensée est forte en toi, tu vas même haïr la tâche qui vient vers toi. Parce que tu es tellement convaincu que entre l'exigence de cette tâche et les ressources que tu as, il n'y a pas photo. J'arriverai jamais. N'est-ce pas? Mais l'homme ou la femme de foi qui compte sur Dieu, qui sait que si une tâche me vient dans la providence de Dieu, Christ me donnera la capacité de le faire. Je ne suis pas seul. Dans ce que je fais, cette personne va dire, allez-y, allons-y, on va le faire. Vous voyez? L'amour, la foi, l'espérance. Comment est-ce que l'espérance nous rend travailleurs? L'espérance, c'est cette attitude qui regarde vers l'avenir ultime, le monde à venir, le jugement à venir. L'éternité à venir où nous serons récompensés pour tout ce qu'on fait maintenant. Maintenant, vous savez que une des pensées les plus paralysantes qui existent en France aujourd'hui, c'est la pensée que cette vie est tout. Et qu'est-ce que ça fait? Si cette vie est tout, ce que je fais maintenant n'a pratiquement aucune raison d'être, aucune valeur. De toute façon, tout ce que je fais, tout ce que j'essaie d'accomplir, ça va disparaître un jour quand je vais mourir. C'est pour cela que, après avoir parlé de la résurrection et la vie à venir, dans tout un chapitre en 1 Corinthiens, regardez bien comment Paul finit. Il finit avec ces mots sur le travail. Il dit aux chrétiens, ainsi, puisque vous allez ressusciter, et puisque tout ce que vous faites maintenant compte pour toujours ça compte. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est la résurrection à venir qui nous motive à faire tout ce que nous pouvons pendant qu'il est encore temps. Je pense que je vais m'arrêter là. Il faut couper avec les habitudes qui gaspillent le temps, les jeux vidéo, la télévision. Il faut donner une mesure à cela qui est raisonnable, mais ne pas le laisser manger tout le temps. Il y aurait d'autres choses à dire pour combattre la paresse. Il faut commencer par des petits pas, n'est-ce pas? Mais surtout, je veux vous laisser avec cette pensée que c'est surtout la personne croyante qui sait qu'il est aimé par Dieu, qu'il est pardonné, constamment pardonné, tous les jours, pardonné, 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 aimé malgré ses fautes, malgré ses déficiences, ses faiblesses, que Dieu m'a saisi, il m'a sauvé, il m'a ramené à lui-même. Ce que je fais maintenant, c'est, il en a pris possession, je suis à lui. C'est vivre dans ce monde de la bonne nouvelle, de la foi dans le pardon, l'amour pour Dieu, l'espérance que je veille vers sa gloire, c'est cette personne qui est libre et qui a envie de travailler et d'agir. Et qui sait qu'il peut le faire imparfaitement et souvent loupé. C'est pas grave parce que Dieu, il a tout ça dans sa main de grâce. Et c'est cette liberté de l'Évangile qui nous aide à tenter ce qu'on peut faire et ne pas se soucier de ce que nous n'arrivons pas à faire. Que Dieu nous aide donc à vivre l'Évangile, à vivre dans la foi, l'amour et l'espérance qui font travailler. Bien, nous allons chanter un chant qui parle de l'activisme chrétien, c'est le 304. Veille et prie. 304.